Parmi les configurations syntaxiques fréquentes dans les lettres de Madame de Sévigné à sa fille, il en est une fondée sur la mise sur le même plan fonctionnel d'éléments dissemblables, produite à la fois par l'omission du verbe recteur et par la coordination de compléments de nature différente, qui s'avère trop récurrente et trop expressive pour ne pas être significative, le zeugme syntaxique. De fait, l'épistolière, qui manifeste un goût prononcé pour l'ellipse, coordonne aisément les équivalents du nom les plus variés, qui, dans l'immense majorité des cas, occupent la fonction COD. Rappelons d'ailleurs que si de telles coordinations ne sont plus guère admises dans la langue actuelle, à l'époque de Madame de Sévigné, le zeugme syntaxique n'a rien de fautif, y compris, contre toute attente sans doute, aux yeux du plus intransigeant des remarqueurs, le père Bourg, un ami de Madame de Sévigné, qui y voit même plutôt un signe d'élégance. Mais il y a bien davantage que la fréquence de ce genre de configuration, comme le prouve l'analyse distributionnelle des zeugmes syntaxiques. Lorsque l'on examine les critères contextuels propres à favoriser l'usage des zeugmes sur la scène d'énonciation épistolaire, on s'aperçoit que la très grande majorité des occurrences intervient dans une situation discursive bien précise, les requêtes que Madame de Sévigné formule généralement en fin de lettre concernant le contenu des lettres de sa fille. Remplies d'inquiétude, de curiosité et d'impatience, les demandes maternelles recourent presque systématiquement aux zeugmes, dont l'expressivité est due à toutes sortes d'ellipses plus ou moins radicales et qui peuvent aller jusqu'à l'effacement de tout un contenu propositionnel. C'est ce que montrent les exemples 1 et 2. « Vous me direz comme vous vous portez de cette sorte de vie, et vos jambes, et vos inquiétudes. » Exemple 2. « Ayez au moins celui de me demander toujours de vos nouvelles, et comme vous vous portez, et votre aimable visage que j'aime tant, et si vous vous mettez sur ce diable de Rhône. » À y regarder de près, on peut distinguer deux sortes de requêtes impliquant des zeugmes syntaxiques. Premièrement, il arrive que les demandes soient formulées de manière indirecte, notamment à l'aide de la locution verbale « avoir envie de savoir », comme dans l'exemple 3. « J'ai bien envie de savoir comme vous êtes, si vous avez mangé de ce que je vous ai apprêté, si votre poitrine n'est point bien échauffée, si vous dormez un peu. » Apte à régir aussi bien des syntagmes nominaux, pronominaux, que des propositions interrogatives indirectes, cette locution s'avère particulièrement propice à des effets d'empilement syntaxique, comme l'illustre l'exemple 4. « Voilà bien de mes nouvelles. J'ai fort envie de savoir des vôtres. Et comme vous vous serez trouvée à Lyon, si vous y avez été belle, et quelle route vous aurez prise, si vous y aurez dit l'oraison pour monsieur le marquis, et si elle aura été heureuse pour votre embarquement. » Lancée par la locution verbale, l'accumulation d'interrogatives favorise les ellipses propositionnelles qui sont à l'origine de raccourcis saisissants, par exemple encore dans l'exemple 5. « J'ai une envie extrême de savoir de vos nouvelles, et comme vous vous trouvez de la tranquillité et de la longueur de votre marche, si vous arrivez tard, quelle fatigue, quelles aventures !» Deuxièmement, et c'est le cas le plus fréquent, les requêtes impliquant des zeugmes peuvent dépendre de verbes de parole à l'impératif, tels que « compter » dans l'exemple 6. « Ainsi, ma chère bonne, comptez-moi un peu vos dépenses et vos pertes d'Avignon, si mademoiselle d'Alérac vous tourmente, si mademoiselle de Grignan est pour quelque sorte de temps à Gif, si le coadjuteur aura l'honneur de la requête civile. » Les zeugmes peuvent également dépendre du verbe « parler », exemple 7. « Parlez-moi de votre joie et si elle vous a coûté bien des craintes. » Ou encore, exemple 8, du verbe « dire ».« Dites-moi bien la vérité de tout ceci, et quand vous aurez trouvé de l'argent pour payer monsieur le chevalier de son propre bien. » Incontestablement, c'est le verbe « mander » qui est le plus utilisé au moment des requêtes. Employé à l'impératif, il donne lieu à des zeugmes reposant le plus souvent sur la coordination d'un groupe nominal et d'une proposition interrogative indirecte. Donc il s'agit des exemples 9 et 10. « Mandez-moi votre avis et ce que vous faites de cateau. » Encore. « Mandez-moi bien de vos nouvelles et si vous mangez et comme vous aurez trouvé vos enfants. » L'analyse distributionnelle, en montrant que les zeugmes syntaxiques apparaissent principalement à l'un des endroits stratégiques de la lettre, la séquence finale qui mêle indissolublement les adieux, les aveux sentimentaux et les requêtes, permet de mesurer à quel point Madame de Sévigné en fait un usage ciblé, étroitement dépendant de besoins pragmatiques, ancrés dans l'interaction épistolaire. Pour le lecteur familier de lettres et de manuels épistolaires du XVIIe siècle, une telle pratique contraste avec les habitudes épistolaires usuelles. En effet, cette surenchère affective des clausules rompt avec une négociation plus ordinaire ou la prise de congé tend, au contraire, à lénifier le propos pour se quitter en bon terme, une fonction que Frédéric Berthet, en symétrie à la fonction fatigue, appelle cygétique. Dans la mesure où, je reprends des propos d'Anna Jobert, l'exploitation motivée et systématisée d'un fait de langue quitte la sphère des codes plus ou moins partagés, on est donc en droit de considérer les eugmes de la correspondance comme une configuration syntaxique proprement idiolectale. À ce stade de l'analyse, on peut être tenté, pour expliquer cette particularité idiolectale, de recourir aux vastes perspectives surplombantes les plus couramment avancées par des générations entières de critiques, qu'elles soient d'ordre psychologique ou esthétique. D'abord, on pourrait évoquer la personnalité passionnément maternelle de l'épistolière et voir dans les eugmes syntaxiques autant d'accidents de langage portant la trace d'affects irrépressibles. Ensuite, si l'on se laisse aller à des considérations esthétiques sur la prose sévinienne, on peut défendre l'idée que les eugmes participent du naturel et de la naïveté de la marquise. Pourtant, n'en déplaise aux lecteurs prompts à célébrer la prose inimitable de Madame de Sévigné, telles ne sont pas les préoccupations du stylisticien qui, après avoir prouvé le caractère idiolectal des eugmes syntaxiques en invoquant la régularité de leur valeur d'emploi et leur valeur contrastive, ne peut interpréter cette saillance singulière qu'avec méfiance. Sachant par expérience qu'une mise en perspective synchronique oblige dans bien des cas à relativiser la singularité du fait ponctuel isolé, le stylisticien, aussi prudent que scrupuleux, s'astreint à procéder à une recontextualisation large afin de s'assurer que le fait étudié n'est pas réductible à une pratique langagière aussi banale qu'insoupçonnée. Fatalement, une mise en perspective des eugmes syntaxiques de Madame de Sévigné conduit à en minorer, dans un premier temps, l'originalité, à tel point que l'on finit par se demander si ces eugmes ne seraient pas réductibles à un fait de langue dont l'actualisation par Madame de Sévigné serait largement favorisée par des données à la fois d'ordre sociologique et d'ordre générique. Autrement dit, il convient d'éviter de mettre au compte du génie sévinien une configuration qui, même si elle contribue indéniablement à la vivacité des lettres, témoigne surtout de l'état transitoire de la langue, de la permissivité propre à l'écriture familière, de la tendance des locuteurs à résister aux normes syntaxiques en gestation. D'une part, donc, l'abondance de zeugmes illustre bien la souplesse de l'idiome classique qui se caractérise par sa grande diversité variationnelle. De fait, même si l'on constate qu'après 1650, le schéma asymétrique est en voie de régression, car il est contraire au mouvement général de la langue qui vise de plus en plus à la netteté et à la douceur du style, la coordination d'éléments qui sont de catégories morphosyntaxiques différentes est loin d'être exceptionnelle dans la prose du XVIIe siècle, la faveur dont jouissent ces cas d'asymétrie étant à relier en partie à la différence de perception du cadre phrastique. D'autre part, la prédilection de Madame de Sévigné pour les eugmes doit être rapportée au genre de la lettre familière pensée sur le modèle de la conversation. Écrite au fil de la plume, sans relecture ni retouche, la lettre familière ne peut qu'encourager l'inventivité, voire l'irrégularité syntaxique, l'épistolière sachant pouvoir compter sur l'indulgence et la connivence de sa destinataire. Enfin, la tendance à accumuler les eugmes constitue une bonne illustration du tempérament frondeur des locuteurs, aristocratiques pour la plupart, qui continuent de résister à l'entreprise de standardisation des usages, comme l'ont mis en évidence les récents travaux de Gilles Siouffi. Au terme de cette mise en perspective synchronique, il apparaît donc qu'en multipliant les eugmes, Madame de Sévigné, confiante dans les pouvoirs tout féminins de la négligence et bien décidée à profiter des libertés propres à la lettre familière, ne fait qu'exploiter un usage encore relativement bien toléré. Ainsi contextualisée, l'abondance de eugmes, loin de devoir être rapportée à une préférence consciente pour un style inventif et indiscipliné, asiatique, dirait Madame de Sévigné, semble devoir être réduite à un simple fait de langue dont l'usage est favorisé autant par le genre pratiqué que par l'âge et le milieu de la marquise. Certes, en procédant de la sorte, nous échappons à l'écueil de la surinterprétation. Pourtant, il paraît difficile de se satisfaire d'un tel réductionnisme, tant persiste l'impression de lecture, aussi tenace qu'imprécise à ce stade, qui nous a poussé à repérer et à décrire les eugmes. À savoir, leur accumulation, aussi enracinée soit-elle dans la situation de communication, déplace, ne serait-ce qu'un moment, l'attention du dit au dire. Face à ces kyrielles de zeugmes, s'impose l'intuition selon laquelle s'ils sont ressentis comme des configurations marquées, c'est parce qu'ils ne se contentent pas d'accomplir en toute transparence une routine conversationnelle, demander des nouvelles à son interlocuteur. Au contraire, dans le cadre communicationnel précis de l'être familière entre mère et fille, ils produisent un véritable décalage pragmatique, pour reprendre l'analyse d'Anna Jobert. Si on le dit de manière triviale, Madame de Sévigné demande des nouvelles à sa fille de manière trop longue, trop détaillée, trop insistante, trop pathétique aussi, par rapport aux attendus langagiers de ce genre de relation épistolaire, 3 fois par semaine. Or, comme l'explique Anna Jobert, les germes du style sont bien des faits de langue capables d'évoluer en faits de style par leur récupération signifiante et orchestrée dans un genre de discours précis. Récupération dont le symptôme est précisément un décalage pragmatique ressenti à la lecture, c'est-à-dire, je cite toujours Anna Jobert, un décalage où le style a son mot à dire, mais en interaction avec des facteurs culturels, autrement dit avec un réglage de la réception. Rendre compte d'un tel décalage pragmatique ressenti à la lecture, c'est parvenir à expliquer en quoi nous avons affaire à un fait de style et non plus seulement à une singularité idiolectale. Précisons d'ailleurs que parler de style d'une correspondance authentique ne préjuge pas de sa littérarité. En fait, si l'impression que les eugmes s'affranchissent de la conformité au genre de la lettre familière persiste, bref, s'ils paraissent relativement incongrus, voire marqués, c'est qu'ils entraînent la reconnaissance d'un patron discursif, identifiable entre tous, en raison de ses effets de redondance lexicale, d'entassement syntagmatique et d'étirement phrastique, conçus comme les traces d'une énonciation passionnée, celui de la lettre d'amour. On sait que dans la seconde moitié du XVIIe siècle, s'est imposée l'idée, véhiculée abondamment, autant par les ouvrages de rhétorique que par les manuels et romans épistolaires, que les sentiments authentiques entraînent des perturbations d'expression, à tel point que la justification des déviances et irrégularités stylistiques propres à la lettre amoureuse, qui autorise certaines licences prohibées en tout autre contexte, est devenue un topos, ce que vient d'ailleurs confirmer l'aventure éditoriale des lettres portugaises notamment. En dernière analyse, si les eugmes peuvent et doivent être envisagés comme de véritables faits de style, c'est non seulement parce qu'ils ne se conforment pas au moule générique de la lettre familière, mais aussi parce qu'ils font signe vers un imaginaire langagier historiquement daté. En outre, il entre en convergence avec toutes sortes d'autres indices, dont les appellatifs « ma chère, ma bonne, ma très aimée, ma très bonne, ma très chère », etc., sont les plus connus et les plus visibles. Ainsi, cette particularité entre bien dans ou manifeste bien les représentations et les préoccupations d'une époque soucieuse de constamment raffiner l'expression de l'amour. Parvenue au terme de cette réflexion, une mise au point méthodologique peut faire mesurer le chemin parcouru. Donc, tout d'abord, nous avons commencé par isoler un fait, repéré à cause de sa récurrence, dans un premier temps, et par le décrire. Ensuite, nous avons cherché à évaluer dans quelle mesure et à quel niveau les eugmes manifestaient une appropriation singularisante de la langue. Premièrement, nous nous sommes assurés qu'il s'agissait d'un fait de langue en emploi idiolectal, en procédant à une analyse distributionnelle qui a montré que les eugmes étaient surtout employés dans le secteur significatif de la clôture de la lettre. Nous avons également évoqué le caractère contrastif de ce trait de langue dans la mesure où il intensifie la clôture de la lettre, contrairement aux pratiques courantes. Par la suite, afin de ne pas surestimer une originalité qui ne peut sembler séduisante qu'à proportion de notre méconnaissance du contexte, nous avons procédé à une mise en perspective synchronique, invitant à se déprendre d'une critique des intentions toujours sujette à caution. Enfin, pour achever l'analyse, nous avons cherché à déterminer si les eugmes syntaxiques n'entraînaient qu'une individuation, ce qui est le propre de l'idiolecte, ou bien s'il faisait émerger de façon concomitante sens et valeur, ce qui est le propre du style. Pour cela, nous sommes revenus à l'impression d'un décalage entre le fait relevé et le cadre communicationnel, avant de formuler une hypothèse tenant compte des attendus langagiers du lecteur et du moment précis des convenances épistolaires. Ce faisant, nous nous sommes intéressés non seulement aux effets dont les eugmes sont à l'origine, mais encore à leurs conditions de possibilité. Démarche qui illustre que le fait n'est pas seulement ce qui est constitué, mais aussi événement et processus dynamique de production et d'interprétation.